puisque vous êtes tous là, nous allons commencer et nous allons donc aborder tout de suite, comme je vous l'annonçais ce matin, l'accomplissement des 7 signes annonciateurs. Alors, si vous voulez bien, prenez vos Nouveaux Testaments, soit en français, soit en grec, à Matthieu 24, et puis nous allons voir maintenant, non pas la prophétie du Christ, mais nous allons voir son accomplissement. Son accomplissement. Alors, le premier signe annonciateur, ce sont les faux Christ. Les faux Christ. Jésus donc commence par dire « Plusieurs viendront sous mon nom en disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs viendront sous mon nom en disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Si beaucoup se laissèrent tromper, c'est que pour les chrétiens qui venaient quasiment tous du judaïsme, la séduction était très forte d'attendre, non sans un certain fanatisme patriotique, je pense ici particulièrement aux Zélotes bien sûr, la venue du Messie roi qui libérerait la Terre Sainte du joug insupporté de Rome et dans l'espoir d'une reconquête contre les Romains du royaume pour Israël. C'était donc une tentation pour beaucoup, et beaucoup s'y laissèrent tomber. Nous avons peut-être un homme de ce genre, je dis un homme de ce genre, c'est pas un des faux Christ, mais c'est l'homme de ce genre, dans le Simon dont parle Acte 8, versets 9 à 11. Cet homme dont on disait « Celui-ci est la puissance de Dieu appelée la grande. » Celui-ci est la puissance de Dieu appelée la grande. Et je pense que ce Simon, dont parle le livre des Actes, est un précurseur de ces faux Christ. En tout cas, dans deux de ces lettres, la première et la seconde, l'apôtre Saint Jean désigne ces faux Christ qui se multipliaient comme des antichrists. Si vous prenez les lettres de Jean, je vous donne les références. 1 Jean 2, 18-19. Jeunes enfants, c'est l'heure dernière. Comme vous avez entendu qu'un antichrist venait, voici, il y a maintenant plusieurs antichrists. Et par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais de la sorte, il est manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Vous voyez, c'est un texte précis qui montre qu'on a bien, à l'heure dernière, dans le temps apostolique, on a bien l'apparition de plusieurs antichrists. Je ne pense pas qu'on puisse dire beaucoup plus là-dessus, mais quand même, il faut bien souligner que, une fois de plus, comme dans les textes que je vous ai cités ce matin, il y a la prophétie au futur. Vous avez un antichrist, entendu qu'un antichrist venait, et tout de suite, le présent, maintenant, ça y est, il y a plusieurs antichrists. Et par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Mais je dirais, c'est sûr, les trois premiers signes annonciateurs, je crois vous l'avoir dit hier, ce sont des signes qui sont encore assez généraux. Si vous voulez, les 7 signes vont être de plus en plus précis. Le signe le plus précis devant être le 7e, à savoir l'abomination de la désolation. Donc là, les faux Christ. Deuxième signe, il va y avoir guerre et bruit de guerre. Ça, c'est le verset suivant, 24-6. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. C'est un signe avertisseur de la fin, mais ce n'est pas encore la fin. Alors là, on peut davantage faire un exercice historique. En effet, le monde méditerranéen a connu la fameuse Pax Romana. Et cette paix romaine a duré longtemps, à partir du long règne d'Auguste, de 27 avant notre ère, à 14 ans après, c'est le règne d'Auguste, et puis ensuite il y a le règne de Tibère, 1437, celui de Caligula, 37-41, celui de Claude, 41-54, et celui de Néron. Or, jusqu'au moment dont je vous parlerai tout à l'heure, qui a fait un tournant dans le règne de Néron, disons jusqu'en 62, il y a la Pax Romana. Et cette Pax Romana a certainement facilité la rapide extension de la foi et de l'Église chrétienne, la marche en avant de l'Évangile. Notre écrivain poète français Charles Péguy, dans son recueil Ève, a ce vers: les pas des légions avaient marché pour lui. Les pas des légions avaient marché pour lui, en ce sens que c'est vrai que les routes romaines, qu'elles soient terrestres ou qu'elles soient maritimes, étaient sous la garde, la protection de la paix romaine. Mais tout va se changer à partir de la fin du règne de Néron. Et on peut dater même très exactement à partir de l'an 62. Néron est arrivé au pouvoir en 54. Eh bien, de 54 jusqu'à 62, c'était pendant 8 ans, Néron va être un empereur romain, disons, acceptable. Et d'ailleurs, c'est l'époque pendant laquelle Paul pourra écrire le chapitre 13 de sa lettre aux Romains, et dans la lettre 13, dans le chapitre 13 de sa lettre aux Romains, vous savez, il parle du ministère, de la liturgie. Il emploie le mot, il dit que les magistrats sont les liturges de Dieu. Dans le grec, c'est le terme employé, les liturges de Dieu pour exercer la justice. Qu'est-ce qui se passe en 62 ? Néron, au début de son règne, est conseillé par deux bons hommes considérables. L'un est Sénèque. Sénèque, dont on connaît les œuvres latines. Et Sénèque avait pour lui l'appui du Sénat. Le Sénat romain était derrière Sénèque. Et Sénèque était un des conseillers, il était même le plus proche conseiller de Néron. Et à côté de Sénèque, il y avait Burrus, ou Burrus, B-U-2-R-U-S. Et Burrus, lui, avait l'appui de l'armée. Or, qu'est-ce qui arrive en 62 ? Un, Burrus meurt, et deux, Sénèque donne sa démission. Et Néron perd donc en l'année 62 ses deux bons conseillers, en tout cas ses deux meilleurs conseillers, Sénèque et Burrus. Alors, il va se déclencher plusieurs choses. Par exemple, une des choses, c'est qu'il va y avoir ce qu'on appelle la conjuration de Pison, qui va commencer vers 63, donc un an après la mort de Sénèque, et la répression ordonnée par Néron à la suite de cette conjuration de Pison va être effroyable. Ça va durer d'ailleurs 2 ans. 64-65, ou disons un peu moins de 2 ans, parce qu'il y a seulement une partie de 64, une partie de 65. Un an, disons. Un an à cheval sur 64 et 65. Donc, déjà, quelque chose de terrible. La répression qui a suivi la conjuration. Mais alors, ce qui a eu beaucoup plus grave, c'est qu'il va y avoir une guerre civile dès après la mort de Néron. Je vous l'ai dit, Néron meurt en 68, et alors là, en 68, c'est terrible. Il y a eu ce qu'on appelle, c'est l'année 69, l'année des quatre empereurs. Il n'y avait pas moins de quatre empereurs qui se disputaient le pouvoir. Galba, Vitellius, Otho et Vespasien. Quatre empereurs. Et chacun de ces empereurs s'était autoproclamé empereur. D'ailleurs, Vespasien, la guerre juive était déjà entamée lorsque Vespasien s'est fait déclarer empereur par ses troupes et à la place de Vespasien, en Palestine, ça a été le commandement de Titus. C'est Titus qui a succédé à Vespasien. Alors donc, une guerre civile. Et nous avons des renseignements sur cette guerre civile, en particulier par Tacite qui a vécu de 55 à 120. Et Tacite raconte dans ses histoires la fin de la dynastie julio-claudienne, c'est-à-dire la dynastie de César, la dynastie de Claude, et jusque longtemps, ça va durer très longtemps, il va y avoir des disputes, non seulement entre les quatre prétendus empereurs, ou les quatre qui s'étaient intronisé empereur, et les provinces, comme par exemple la Gaule, à partir de ce moment-là, vont chercher à retrouver leur indépendance en profitant des guerres civiles entre empereurs. Et puis, enfin, ça c'est plus grave, c'est qu'en 66, il y a le déclenchement de la guerre juive. Alors, si je vous dis ça, c'est simplement pour dire, c'est vrai qu'il y a eu des guerres et des bruits de guerre particulière à ce moment-là, puisque la Pax Romana, qui durait depuis le temps d'Auguste, a cessé. Et que c'est une période de guerre civile entre empereurs, c'est une période d'indépendance d'un certain nombre de nations, comme la Gaule, comme la Judée, et, si vous voulez, on peut vraiment dire que c'est le texte nation contre nation, royaume contre royaume, comme Jésus l'avait annoncé. Troisième signe, toujours faisant partie des signes qui sont déjà qui ont une certaine généralité et qui manquent un peu de précision. Enfin, déjà, les guerres et les bruits de guerre dont je vous parle, c'est plus précis que la question des antichrists. Famine et tremblement de terre par endroits. Déjà, le livre des Actes nous parle d'un prophète que je vous ai déjà nommé, c'était un prophète de l'église de Jérusalem, un bon prophète, c'était pas un faux prophète, et Agabus, qui était descendu à Antioche avec d'autres prophètes, c'est toujours le livre des Actes au chapitre 11 qui nous le rapporte, déclara par l'esprit qu'il venait une grande famine sur la terre tout entière. L'expression terre tout entière, en grec olé oikoméné, signifie dans l'ensemble de l'Empire, dans le monde méditerranéen. Et les actes continuent. Cette grande famine eut lieu, en effet, sous Claude. Donc, si vous voulez, vers l'année 50, il y a déjà cette famine. Mais dans un autre de ses livres, non pas histoire, mais annales, les annales, Tacite fait allusion à cette famine, indiquant qu'à Rome même, il ne restait plus alors que pour quelques jours de vivre. Et vous savez que de 55 à 57, Saint Paul dut organiser dans les églises de Macédoine, telles l'église de Philippe, et dans les églises de Grèce, telles l'église de Corinthe, de grandes collectes pour les fidèles, les saints et les pauvres de l'église mère de Jérusalem qui manquaient du strict nécessaire. Nous avons des allusions à cela dans 1 Corinthiens 16, dans 2 Corinthiens 8, dans Romains 15. Bref, il y a eu une période très dure de famine dans l'ensemble, par endroit. D'ailleurs, Jésus avait prophétisé par endroit. Il y a de la famine qui se répand. Et surtout, je vais vous citer ce que dit Tacite dans ses annales au sujet de tremblements de terre de la Crète à la Phrygie et de Rome à l'Asie mineure. Alors donc dans les annales de Tacite, il est question de ces tremblements de terre, donc famine, tremblements de terre. Et alors, la citation que je vous apporte, c'est dans la guerre des Juifs de Joseph. L'officier et historien, dont le nom véritable, son nom hébreu, c'est Joseph ben Matathias à Cohen. Il était donc d'une famille de sacrificateurs, Ar-Cohen, ça veut dire le sacrificateur. Et je vous ai raconté que devenu général, et ayant vite compris que les Romains, commandés par Vespasien, l'emporteraient, il passa à l'ennemi, je vous l'ai dit, et c'est du côté romain qu'il assista à la prise de Jérusalem, et c'est comblé de faveur par Vespasien, qui avait été général romain en Palestine, et puis qui ensuite était devenu empereur à Rome, qu'il prit le titre de Flavius Joseph, parce que Flavius était un des prénoms, un des noms de Vespasien. Donc, il s'appelait en réalité Joseph, mais il a pris de son empereur protecteur, Vespasien, l'un des noms de cet empereur, et c'est pour ça qu'il s'est fait appeler Flavius. Et c'est là qu'il a écrit les trois ouvrages dont je vous ai parlé, le Contrat Appion, les Antiquités juives et la Guerre des Juifs. Alors, il nous rappelle un petit peu ces événements. Il parle dans son livre de famine, il parle de tremblements de terre. Donc, il ne faut pas croire qu'il y a eu bel et bien, vers les années 55 à 65, il y a eu vraiment des famines et des tremblements de terre qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Il y a toujours eu, vous savez, des tremblements de terre, et dans l'Antiquité aussi des famines, mais là, vraiment, ça s'est corsé. Alors, nous arrivons à la deuxième série. Non, ça c'était la première série de trois, les faux Christ, les guerres et les prix de bruit de guerre, par endroit des famines et des tremblements de terre. Alors nous arrivons maintenant à des choses plus précises, et qui vont toucher d'ailleurs profondément l'Église. D'abord, le martyr de fidèles persévérants, qui se mêle historiquement à la question de l'apostasie de beaucoup, parce que c'est allé ensemble. Il y avait une sorte d'apostasie d'un certain nombre, nous y reviendrons dans un instant, mais il y a eu le martyr, la fidélité jusqu'au martyr de fidèles qui ont persévéré. D'ailleurs, Matthieu 24 au verset 8 nous dit à ce sujet-là, au sujet de tout ce dont j'ai parlé jusqu'à présent, tout ça ne sera que le commencement des douleurs. L'expression là, en grec, archéodinon, signifie très exactement les douleurs de l'accouchement. Il reprend au fond, ça c'est les douleurs de l'accouchement, sous-entendu de la faim. C'est les douleurs de l'accouchement. Mais, à ce moment-là, il y a eu de vraies persécutions. Et tout ça, ça va se corser, puisque à la persécution juive, qui dure pratiquement depuis la Pentecôte, va s'ajouter, à partir de Néron et de l'incendie de Rome en 64, la persécution romaine. Alors le livre de l'Apocalypse reflète bien ça, parce que vous avez à la fois la bête qui monte de la mer, c'est l'Empire de Rome, et la bête qui monte de la terre, Gay, dans le Nouveau Testament, désigne la Terre Sainte. Alors, la bête qui vient de la mer, Rome est au milieu de la mer, enfin, Rome est au centre de la Méditerranée, enfin, au centre, en tout cas, politique de la Méditerranée, donc, il y a la bête qui monte de la mer, qui, au fond, rejoint la bête qui monte de la terre, et la bête montant de la terre persécutait déjà les chrétiens, et maintenant, il y a une autre bête, et d'ailleurs, les deux bêtes vont s'ascoquiner pendant un temps. Je reviendrai sur cette question tout à l'heure. Ce qu'il faut remarquer, c'est que le martyr a été le martyr de ceux qui ont tenu bon. Il y a un mot grec sur lequel c'est bon quelquefois de s'arrêter sur un mot. Il y a un mot grec sur lequel il faut s'arrêter, c'est le mot grec hupomone. Le mot hupomone, d'ailleurs, comme le verbe qui lui correspond, hupomene, hupomeno, il y a deux racines conjointes, meno qui signifie rester, exister, et puis la préposition hupo qui signifie sous. Qu'est-ce que c'est que l'hupomone? C'est le fait de tenir sous. Et il y a deux choses dans le mot hupomone. Parce qu'il faut tenir sous la durée du temps, et là c'est la patience, et il faut tenir bon sous les coups de l'adversaire, ça c'est la persévérance. Si bien que nous nous trouvons devant une difficulté de traduction, si vous vous reportez à vos Nouveaux Testaments, vous verrez que hupomone est tantôt traduit par patience, tantôt traduit par persévérance, alors qu'hupomone a toujours le double sens de tenir bon sous la durée, c'est la patience, et de tenir bon sous les coups, c'est la persévérance. Si bien que la meilleure traduction, mais c'est embêtant d'employer une traduction aussi longue pour un seul mot, c'est de dire la patience persévérante. Mais dire seulement la patience, c'est évacuer le côté persévérance. Et si vous prenez le mot persévérance, vous évacuez la patience. Donc il faut se souvenir que ça signifie tenir bon sous. Voilà, c'est l'origine étymologique, mais il y a des cas où l'étymologie n'est pas forcément indicatrice du vrai sens, tandis que là, l'origine étymologique, l'étymologie indique le vrai sens de hupomone. Hein? Autrement dit, la patience endure. La patience endure. Tandis que la persévérance attend. Et les choses vont ensemble. Donc, il y a eu des chrétiens pour avoir cette force de l'hupomone. Mais ils ont été peu nombreux. Ils ont été peu nombreux. Parce qu'il faut que Dieu, comme le dit l'Apocalypse, renouvelle l'hupomone, c'est dans Apocalypse 13, 18, que Dieu renouvelle l'hupomone et la foi des saints. Les saints ont besoin, précisément, à partir de leur foi, ils ont besoin de l'hupomone. Et nous avons donc un temps qui a été très douloureux. Tant qu'il n'y a eu que la persécution juive, bien sûr, il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Les livres des Actes nous indiquent des morts du temps de la persécution de juive, à commencer par la mort d'Étienne en 37, à continuer par la mort de Jacques, le frère de Jean, en 43. Bon, il y a eu des moments comme ça. Mais ça n'a rien été à côté du déclenchement de la persécution néronienne. Parce qu'alors là, sous la persécution de Néron, ça va être terrible. Ça va être terrible. D'abord, ça va être terrible à Rome. Ça va être terrible à Rome. Et ça va être terrible jusqu'en Orient. Là, ce ne sera pas forcément la mort. L'apôtre Jean ne sera pas mis à mort, mais il sera déporté, exilé, laissé proscrit dans l'île de Patmos. Donc, vous avez un champ d'action varié. Il semble qu'en Orient, la persécution romaine, tout au moins à ce moment-là, a été beaucoup moins forte qu'en Occident, mais n'empêche qu'il y a eu de nombreux martyrs. Et en tout cas, il y avait deux apôtres qui ont été en tête de tous ces martyrs, ce sont les apôtres Pierre et Paul dont nous avons parlé ce matin. Alors, voilà un signe, c'est qu'il va y avoir le martyr de fidèles persévérants. Et ça, ça fait du bruit. Vous savez, pour l'Église des temps apostoliques, la mort de deux hommes comme Pierre et Paul, ça a été quelque chose. Parce que ils ont été deux des leaders de l'Église. Ils ont été, parmi les apôtres, deux des plus grands, les deux grands meneurs. D'ailleurs, l'un avait le titre d'apôtre des circoncis, l'autre le titre d'apôtre des incirconcis. Ça fait du bruit. Ça, le martyr de Pierre et Paul en l'an 67, ça a fait du bruit. Et on peut rentrer dans quelques détails. Je le ferai quand même brièvement. Comme vous le savez, c'est à la suite de l'incendie de Rome, dans la nuit du 18 au 19 juillet 64, que la première persécution venue du côté des nations, venue de l'Empire romain des nations, va s'ajouter et empire à la persécution venue des Juifs. Et jusque-là, il faut bien voir que, il faut rendre justice à l'État romain et au droit romain, jusque-là, Rome avait plutôt favorisé le christianisme. Il y a trois exemples que nous pouvons prendre dans le livre des Actes. Celle du proconsul Gallion à Corinthe, acte 18. Celui du tribun, on pourrait dire du commandant Lysias à Jérusalem, acte 23. Et celui du procurateur Festus, à Césarée, acte 25. On peut dire que Gallion à Corinthe, Lysias à Jérusalem, Festus à Césarée ont plutôt protégé les chrétiens. Donc, c'est pour ça que ça a tellement marqué les gens. Lorsque tout à coup, il y a eu l'incendie de Rome en juillet 64, et que Néron s'est tout de suite débrouillé pour faire porter la responsabilité de l'incendie sur les chrétiens, ce qui allait très bien à la populace. La populace qui déjà disait toutes sortes de calomnies contre les chrétiens a volontiers servi l'empereur. D'ailleurs, c'est comme ça que ça s'est passé au fond. C'est Néron et la populace de Rome qui ont mené l'affaire. Et alors, vous savez comment ça se passait dans l'Empire romain, ça se répercutait. Alors là, ça s'est répercuté au-delà de Rome et surtout, bien sûr, dans la partie occidentale de l'Empire. Alors on a un grand changement. Celui dont parle, sans en parler directement, Romain XIII, va être changé en la bête dont parle Apocalypse XIII. Si vous voulez, on peut dire que l'empereur qui représentait une certaine justice, qui était là pour punir les malfaiteurs et pour protéger les gens de bien, tout à coup, voilà que il ne protège plus les gens de bien. Au contraire, allié à une certaine racaille, il va martyriser les chrétiens. Alors, c'est la bête. C'est la bête. Alors, je vous rappelle que l'Épître aux Romains a dû être écrite vers 57. Donc, à ce moment-là, ça va. Je dirais, vis-à-vis de l'empereur, les chrétiens n'ont pas de méfiance. Ils ont une méfiance par rapport aux autorités juives, mais ils n'ont pas de méfiance par rapport à l'autorité romaine. À partir de 64, ça bascule. Il est vrai qu'il est devenu de plus en plus cinglé, Néron. C'était pas seulement un mégalomane, c'était un véritable, je ne sais pas comment dire, mégalomaniaque. Et c'était un type épouvantable, épouvantable. Vous savez que dès qu'il s'est trouvé seul au pouvoir, Sénèque et Brutus étant disparus, il a assassiné Agrippine, sa mère. Il a assassiné Octavie et Pompée, ses femmes successives. Et il a même fini par faire assassiner Sénèque, son maître. Et puis alors, c'était épouvantable, parce que, au point de vue du désordre sexuel, il était, comme on dit aujourd'hui, un bisexuel, il prenait des femmes, il prenait des hommes et des enfants, je veux dire, c'était le stupre dans toute son ignominie. Et c'est pourquoi, en 68, ça devenait tellement grave, sa mégalomaniaquerie était devenue telle que le Sénat le proclama déchu. Et il, en la même année, 68, il finit par se suicider. Et il avait 31 ans. Pour faire attention, hein, Néron avait été monté sur le trône très jeune. Il n'avait pas 17 ans quand il est monté sur le trône. Il a régné donc de l'âge de 17 ans à l'âge de 31 ans. Et il est devenu de plus en plus fou. Je pense que si Sénèque a démissionné... c'est parce qu'il a senti qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. C'est difficile à voir parce que les récits de Tacite et de Suétone sont quand même postérieurs aux événements. Mais autant qu'on peut voir, nous avons affaire à un cas pathologique redoutable. Et en même temps, c'était un artiste. Ce fou était un artiste. Par exemple, on sait qu'il a admiré le côté grandiose de l'incendie de Rome. D'ailleurs, son intention, d'après Tacite, en faisant brûler Rome, c'était de rebâtir une Rome néronienne auprès de laquelle la Rome ancienne n'était rien. Or, il faut dire que la Rome ancienne, c'était la destruction de temples et de bâtiments souvent très beaux. Toutes les collections de l'art grec qui avaient été emmagasinées dans des musées à Rome, tout ça fut détruit. Ça a été, au point de vue culturel, quelque chose d'épouvantable. Mais il admirait le spectacle grandiose, cette ville entière en flammes, parce que c'est toute la ville qui y est passée. C'est allé de l'extrémité sud du Grand Cirque, près du Mont Palatin, et ça s'est étendu jusqu'au Champ de Mars. Ça a duré une dizaine de jours. dizaine de jours. Il faut dire que Néron a été aidé parce qu'un vent violent s'était élevé. Alors vous savez, les baraques en bois, les boutiques qui étaient à côté du Grand Cirque, tout ça, ça a été vraiment, ça s'est enflammé d'un seul coup. Et avec le vent violent, pendant 10 jours, ça a été l'incendie de Rome. Alors je vous rappelle les dates. Tacite a vécu de 55 à 120. Et son contemporain, Suétone, c'est à peu près les mêmes années, je ne l'ai pas noté là, c'est facile à trouver dans un dictionnaire. Donc, si vous voulez, nous avons affaire à des gens qui, au moment de l'incendie de Rome, Tacite avait 9 ans. Donc, il ne pouvait pas en avoir un souvenir bien direct, mais il était quand même suffisamment proche, et il raconte dans ses histoires et dans ses annales cet incendie. C'est à partir de là qu'on a d'ailleurs distingué les juifs et les chrétiens. Vous savez qu'au début, on ne distingue pas les juifs et les chrétiens. Il y a deux races. Il y a la race des nations, la race grecque ou la race païenne, et puis il y a la race juive. Mais à partir de là, va apparaître le genus tertium, ou le genus tertium, la troisième race. C'est les chrétiens. Et les chrétiens composés des juifs, de gens venus des juifs et venus des nations, si bien que c'est en somme une race mixte. Il y a les juifs, il y a les nations, et puis il y a la troisième race qui est une race de gens composés de juifs et de gens venus des nations. D'ailleurs, je viens de faire allusion à Tacite et à Suétone. Vous savez, ils étaient féroces en parlant des chrétiens. Il n'aurait pas fait de mal peut-être à un chrétien, mais par exemple, Tacite parle de la foi chrétienne comme d'une excitiabilis superstitio, une horrible, une funeste superstition. Et il accuse les chrétiens, Tacite accuse les chrétiens de haine du genre humain, odium generis humani. Et pourquoi? Parce que alors, tout sort de bruit courait, la rumeur prêtée aux chrétiens des crimes secrets, comme par exemple de manger des enfants sacrifiés. Et on voit très bien d'où c'est venu cette idée. C'est parce que les chrétiens parlaient de celui qui était né à Bethléem, de l'enfant Jésus, et puis ils parlaient qu'il fallait manger le corps et le sang de Jésus. Alors de là à dire que les chrétiens étaient des gens qui mangeaient des enfants, vous voyez, il y a une rumeur peut partir de presque rien, elle est partie donc d'une déformation complète de ce que on croyait savoir au sujet des chrétiens. Et en plus, pour Tacite et Suétone, les chrétiens étaient des athées, puisqu'ils refusaient de sacrifier aux dieux au pluriel. Et en plus, ils étaient des ennemis de la patrie, des ennemis de l'Empire, ils étaient des anti-romains, puisqu'ils en appelaient à un roi plus grand que César. D'ailleurs, vous aviez la confession de foi qui était très simple. Qui était César? D'ailleurs, on prononçait César. C'est là que vient l'allemand Kaiser. Kaiser, allemand, c'est César. Eh bien, vous avez quelque chose de terrible. Ou bien vous disiez « Curios Caesar, Seigneur César », ou bien vous disiez « Le Christ Seigneur, Christos Curios ». Et c'est l'un ou c'est l'autre. Alors du moment que les chrétiens refusaient de rendre un culte et d'honorer le Seigneur César, en prétendant qu'il y avait un Seigneur plus grand que lui et qui était le Seigneur Christ, c'était des ennemis de l'Empire, c'était des ennemis de la patrie romaine. Alors nous avons d'autres témoignages que je vous signale au sujet de ces martyrs, de Clément de Rome, dont la lettre date de 70. Enfin, je vous dis ça, c'est toujours d'après mes bons hommes, là, d'après Robinson et d'après Vena. C'est pas moi qui invente ça. Clément de Rome, souvent on datait la lettre aux Corinthiens de Clément, on l'a datée du second siècle. Maintenant, Robinson nous dit que l'année de Clément est probablement de 70. Eh bien, Clément de Rome écrit dans sa... C'est la première de ses épîtres, chapitre 6, verset 1, « Une vaste multitude des élus souffrit d'un grand nombre d'indignités et de tortures. » Et la lettre aux Hébreux, qui a été écrite, toujours par mes mêmes, selon mes mêmes bons hommes, en 67, verset 67, parle de ceux qui furent exposés en spectacle par les opprobres et les tribulations. Hébreux 10, 32, 34. Déjà, la première lettre de Pierre, écrite au printemps 65, donc un an après l'incendie de Rome, comporte cette exhortation « Ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous tester. Au contraire, réjouissez-vous de prendre part aux souffrances du Christ. Hein » première lettre de Pierre. Et vous avez cette prophétie en vue des événements qui vont arriver bientôt, au verset 17, c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Là, une allusion est faite aux Juifs qui refusent de se convertir. Donc, les uns sont crucifiés, les autres sont jetés aux bêtes dans l'arène, d'autres même enduits d'huile ou de résine ont servi de torches pour illuminer les jardins impériaux aux applaudissements de la foule, tandis que, raconte Tacite, Néron paradait triomphant sur le char dont il fouettait les chevaux. Oh, c'était une scène grandiose, on voit tout à fait Néron sur son char, et qui passe dans les allées des jardins impériaux, et les torches qui éclairent sa route, ce sont des chrétiens qui ont été enduits de bitume et qui brûlent, qui jettent des flammes. Et Néron est là, au milieu de tout ça, c'est vraiment la bête. Donc, le quatrième signe avertisseur annoncé par Jésus s'accomplissait en bien des lieux de l'œcuménée. Rome, reine des nations, et Jérusalem, la cité sainte apostate, finissent par être rassemblées dans une ville symbole qui est la Babylone, la grande de l'Apocalypse. La Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. L'allusion aux prostituées dans ce passage de l'Apocalypse est très nette. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Néron se livrait à des prostituées femmes, à des prostituées hommes, à des prostituées enfants, et il obligeait, il est quasi certain, d'après ce qu'on apprend par Tacite et par Suétone, qu'il y a même eu des femmes, des chrétiennes, qui ont été violées par Néron à ce moment-là. Alors, quand il est question de Babylone la Grande, la mère des prostituées, des abominations de la terre, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, on voit tout à fait. Alors, comme l'Apocalypse a dû être écrit, je vous ai dit, vers 68, les événements dont je vous parle se sont passés peu d'années auparavant, entre 64 et 66, eh bien, voilà. Nous avons un résumé par cette parole de ce qui s'est passé, le martyre des fidèles persévérants. Cinquième signe annonciateur, l'apostasie d'un grand nombre. Jésus avait annoncé le danger qui viendrait du dehors contre l'Église apostolique, à savoir les persécutions. Mais il avait aussi prémuni l'Église contre le danger, autrement redoutable à certains points de vue, qui viendrait du dedans, avec, dit-il au verset 11 de Matthieu 24, les faux prophètes qui en séduiraient beaucoup. Et à la suite de Jésus, les apôtres n'avaient cessé d'avertir Église et chrétiens. Par exemple, au conducteur de l'église d'Éphèse, qu'il rencontra à Milet lors d'une escale en 47, Paul avait déjà dit « Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » C'est d'ailleurs un texte assez extraordinaire. L'Église que Dieu s'est acquise par son propre sang. C'est une parole qui va loin, dont Athanase et d'autres pères de l'Église se sont servis pour bien attester la divinité de Jésus. « Je sais que parmi vous, dit Paul, après mon départ, donc à Éphèse, après sa mort, parce que quand il dit mon départ, il ne parle pas du départ immédiat, il parle après sa mort, s'introduiront des loups redoutables qui n'apporteront pas le troupeau et que du milieu de vous, du sein de l'Église, se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples derrière eux. Acte 20, verset 28-30. Et de ces lettres, saint Paul met en garde les fidèles contre les hérésies. Vous savez que le mot grec hérésie signifie un choix. Qu'est-ce que c'est qu'un hérétique? C'est un type qui choisit ce qui lui plaît et qui laisse tomber le reste. Et alors, dans ses lettres, Paul met les fidèles en garde. Et alors, je ne peux pas vous citer tous les textes qu'il faudrait, vous pourrez les trouver vous-même, quand Paul parle de ceux qui sont flottants et emportés à tout vent de doctrine par la ruse des hommes et leur habileté dans les moyens de séduction. Vous avez tous les avertissements qui sont donnés dans ses lettres à Timothée, et vous avez, je vous cite là, 1 Timothée 4, 1, 2, « L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux prédicateurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. » Et encore 2 Timothée 3, « Sache que dans des derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes garderont la forme extérieure de la piété, mais dangereusement dans la puissance. » Et les derniers jours sont bien les derniers jours du temps apostolique, puisqu'il continue « Éloigne-toi de ces hommes-là ». Il ne risquait pas donc de s'éloigner des hommes qui viendraient à la fin du monde. Il s'agit de ce qui va se passer dans cette génération encore. Et quand il écrit à Timothée, Paul a déjà connu des apostats. Par exemple, il y a Démas ou Alexandre le forgeron qu'il nomme expressément dans 2 Timothée chapitre 4 au verset 10 et 14. Nous avons, ce serait trop long de tout énumérer, mais il y a une petite lettre, c'est pas souvent qu'on prêche sur cette petite lettre, et aujourd'hui ça ferait pas de mal, c'est la lettre de Jude. Il faut lire en entier la lettre de Jude, c'est un des écrits les plus courts, avec la troisième épître de Jean dans le Nouveau Testament, mais Jude dit bien les choses. Il s'agissait, dit Jude, de combattre pour la foi qui a été transmise au saints une fois pour toutes, car il s'est glissé parmi vous des hommes impies qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, souvenez-vous des prédictions faites par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui marcheront dans l'impiété. Eh bien, les voilà, continue Jude. Ils sont là, les voilà, les fauteurs de division, les êtres charnels dépourvus de l'esprit. Donc, il y a eu comme signe à la fois le martyr des chrétiens qui persévéraient, et l'apostasie, la triste apostasie d'un grand nombre. C'est pour ça qu'il faut faire attention aussi. Il ne faut pas se figurer que les églises du temps apostolique, c'était des églises remarquables. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas non plus vouloir un retour aux églises apostoliques. Parce que alors, si c'est pour revoir certaines des églises comme celles auxquelles Jean s'adresse au début de l'Apocalypse, ou pour revoir les mœurs qui pouvaient se passer dans l'église de Corinthe, on ne voit pas en quoi nous avons affaire à des églises exemplaires. Ce qui fait la valeur des temps apostoliques, ce n'est pas ce qu'ont été à cette époque plusieurs églises. C'est parce qu'il y a eu la vérité proclamée par les apôtres. Et ce que les apôtres ont toujours maintenu pour qu'il y ait une foi qui subsiste et qui tienne bon sous les épreuves. Et alors nous arrivons au sixième signe, l'évangile annoncé à toutes les nations. Alors là aussi, on nous dit, mais non, mais l'évangile n'a pas été annoncé à toutes les nations. Mais si, l'évangile a été annoncé à toutes les nations, selon le témoignage même du Nouveau Testament. Je vous ai dit hier que rien n'est plus extraordinaire que l'épopée de l'Évangile dans ces années 30 à 70. On peut dire qu'il y a eu une marche triomphale de l'Évangile dans tout l'Empire romain. Et c'est ainsi, pour vous citer des confirmations, que saint Paul, de son vivant, et avant même cela, dit que l'Évangile a été annoncé à toutes les nations. Voilà ce qu'il écrit aux Romains, chapitre 1, verset 8. Et donc en 57, donc on est loin encore de tout ce qui va se passer comme évangélisation entre 57 et 70. « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce que votre foi est annoncée dans le monde entier. Et il écrit aux Colossiens, chapitre 1, versets 6 et 23, « L'Évangile est parvenu chez vous, tout comme il porte des fruits et progresse dans le monde entier. » Et ça va encore plus loin, là, il y a un peu de... c'est un euphémisme, c'est quelque chose de... L'Évangile a été prêché à toute créature sous le ciel. Ça, c'est dans la lettre aux Colossiens, au chapitre 1 et au verset 23. Donc, c'est vrai, il y a eu un signe, c'est que dans les années, mettons en gros 50 à 70, dans une période de 20 ans, qu'est-ce que c'est que 20 ans? Bientôt, notre faculté d'Aix va avoir 20 ans. Alors, je vous assure, pour moi qui suis dans cette faculté depuis ses débuts, c'est rien, 20 ans. Et bien, dans cette période de 20 ans, l'Évangile est annoncé à toutes les nations de l'œcuménée, c'est-à-dire de l'Empire romain, du bassin méditerranéen. Dernier signe, avertisseur, l'abomination de la désolation. Jésus lui-même appelle le témoignage ou la prophétie de Daniel. Bon, c'est un morceau difficile à avaler, le prophète Daniel. Mais c'est très significatif la place qu'il tient dans tous ces événements. Et pourquoi? Pour une raison très simple, c'est qu'il en a été dans son livre, et en particulier dans les chapitres 2, 7, 9 et 12, il en a été le prophète. Daniel est le prophète du temps apostolique. Et Daniel est le prophète de l'abomination de la désolation. Et Jésus lui-même le dit, puisqu'il annonce comme septième signe l'abomination de la désolation dont parle le prophète Daniel. Donc, on a une claire indication. L'ère ancienne. Et il dit des tas de choses extraordinaires, c'est au chapitre 9. Et en particulier, il va revenir à trois reprises sur cette abomination de la désolation. Par exemple, au chapitre 9, il parle des désolations et des abominations qui vont venir. Donc, Jésus a certainement fait allusion déjà à ces désolations et abominations dont parle Daniel au chapitre 9. Mais en plus, il indique au chapitre 11, des troupes se présenteront, profaneront le sanctuaire, aboliront le sacrifice perpétuel et dresseront, c'est l'expression employée, l'abomination du dévastateur. Ça, c'est chapitre 11 de Daniel, versets 31 et suivants. Et plus loin, au chapitre 12, il revient encore sur le temps où sera interrompu le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur. Dans la Bible hébraïque, l'abomination, en hébreu chikus, l'abomination, ou les abominations, chikusim, désigne des actes blasphématoires accomplis soit par les Israélites, soit par des non-israélites qui insultent, de manière blasphématoire, je répète, le nom de Dieu. Alors là, vous pourrez vérifier, peut-être vous avez une concordance de la Bible hébraïque, vous avez cherché cette conférence au mot chikus, et vous verrez qu'il est bien question de ces actes. Et dans le passage parallèle à Marc 24:15, Luc dit « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, » c'est Jésus qui parle, mais ça c'est Luc qui nous le transmet, « sachez alors que la désolation arrive. » L'investissement de Jérusalem, la ville sainte, arriva un soir de 68, quand 20 000 soldats édomites, idumeens, alliés des Romains, enveloppèrent la cité de David et ses montagnes saintes. Ainsi, des Iduméens, vous savez que les Édomites, les Iduméens, étaient des fils, des descendants, des Ahus, Et il y a un conflit à travers toute la Bible entre Ésaü et Jacob, c'est-à-dire entre les Édomites et Israël. Et alors là aussi, il faudrait faire toute l'histoire, mais je me garderai de m'y lancer, l'histoire du combat, du conflit spirituel et matériel quelquefois entre Édomites et Israélites tout au long de l'Ancien Testament. Mais voilà ce que raconte Flavius Josèphe. Pendant la nuit, il s'agit donc de cette nuit de l'année 68, pendant la nuit éclata un terrible orage accompagné de vents violents et de pluies torrentielles. Les éclairs étaient ininterrompus, les coups de tonnerre épouvantables, la terre était ébranlée de mugissements extraordinaires. Ce bouleversement de l'ordre de l'univers présageait clairement la ruine pour les hommes et ses prodiges faisaient conjecturer une formidable catastrophe. Et il ajoute, les Iduméens traversèrent la cité pour monter au temple, n'épargnant personne, étant portés au meurtre par une cruauté native. Ils ne faisaient pas de distinction entre les suppliants et les combattants. Il n'y avait aucun lieu de refuge, aucun espoir de salut. Écrasés les uns contre les autres, ils étaient mis en pièces, et la plupart, tandis qu'ils s'étaient refoulés, comme ils ne trouvaient plus d'endroit où reculer, et que les meurtriers les serraient de près, ne voyant aucun moyen de se tirer d'affaire, ils se jetèrent la première dans la ville. Parce que le temple aussi surmontait la ville. Le sang coulait à flots dans toute la partie extérieure du temple, et le jour se leva sur des milliers de cadavres. Et alors Joseph raconte que des juifs insurgés, des juifs, pas seulement les Édomites et les Romains, mais les juifs insurgés utilisèrent le temple de Dieu comme forteresse. Des factions, ceux d'Éléazar, ceux d'un certain Jean, ceux d'un certain Simon, firent dire Joseph du temple un charnier de guerre civile. Et il y aurait encore bien à dire. Donc si vous voulez que l'abomination de la désolation, c'est une conjonction des nations, des Romains, conduits à l'époque par Titus, ça n'est plus Vespasien à ce moment-là, qui dirige les troupes romaines, c'est Titus. Vespasien, lui, il est parti pour Rome comme empereur. Bon, alors il y a les Romains. Il y a les Édomites, qui ne sont pas vraiment des nations, mais qui ne sont pas non plus des descendants d'Israël, qui sont des descendants d'Israël. Et puis il y a des factions juives, commandées par cet Éléazar, par ce Jean, par ce Simon. Et tout le monde contribue à l'abomination de la désolation. Dans l'avertissement qui suit, Matthieu 24, 16, 22, Jésus était entré dans les détails les plus réalistes. Que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur une terrasse ne descende pas prendre ce qui est dans la maison. Que celui qui sera dans les champs ne revienne pas prendre son vêtement. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car il y aura, donc conjointement avec l'abomination de la désolation, il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura dans la suite de l'histoire, donc qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Là encore, Jésus se réfère au livre de Daniel. Alors ce qui est intéressant au point de vue exégèse, enfin c'est une petite parenthèse qui n'est pas tellement importante, un prophète, entre guillemets, un scribe inspiré, a délibérément introduit dans ce passage, lors de la rédaction finale de l'Évangile selon saint Matthieu, à la fin des années 40, donc, ces quelques mots, que le lecteur fasse attention. Artaud, attention, attention, c'est important. Ce que Jésus a dit là, que le lecteur de l'Évangile fasse gaffe. Parce que s'il fait bien attention à tous ces signes avertisseurs, il pourra éviter d'entrer dans ces choses épouvantables que va connaître cette génération. Et c'est ainsi que les chrétiens qui lurent cet évangile dans les années 50 puis 60 purent et durent prendre les dispositions nécessaires. Les sept signes avertisseurs, et particulièrement le dernier, les appelaient et les incitaient à fuir Jérusalem et la Judée en temps utile, et en tout cas quand il verrait l'enveloppement armé de la ville sainte et l'abomination de la désolation qui s'esquissait. Ainsi, divinement et dûment avertis, les saints réglèrent leur conduite en tenant compte au fur et à mesure qu'ils se produisaient de ces avertissements. D'ailleurs, on sait que c'est sans doute dès 67 que la plupart des chrétiens de Jérusalem fuirent la ville sainte et sa région. Une tradition historique ancienne, je vous en ai déjà parlé, qui semble pouvoir être maintenue en dépit de l'opposition de certains historiens, veut qu'ils se soient réfugiés nombreux, en tout cas, à Pella, au-delà du Jourdain, dans la Décapole, ayant traversé sain et sauf la tribulation. Et à cette tribulation, saint Jean, qui à Patmos en prenait sa part, il y fait allusion à plusieurs reprises. Et même au début de l'Apocalypse, et il dit « Moi qui ai part à la tribulation ». Donc Jean a pris part à cette tribulation, qui eut une durée totale de 3 ans et demi. 3 ans et demi. Alors là aussi, vous allez trouver que vraiment, je veux être trop pointilleux au sujet des prophéties de Daniel. Mais enfin, c'est une tribulation dont Daniel dit qu'elle durerait 3 ans et demi. Et il le dit sous des figures très différentes. Dans Matthieu 9, 27, il parle de la moitié de la septaine. Qu'est-ce que c'est que la moitié de 7 ans? C'est 3 ans et demi. En 7, 25 et en 12, 7, il parle de un temps, deux temps et la moitié d'un temps. Qu'est-ce que c'est que un temps, deux temps et la moitié d'un temps? C'est 3 ans et demi. Et dans le chapitre 12 et au verset 12, il parle de 1290 jours. Faites la division, comme j'ai voulu le faire pour vérifier, vous verrez que 1290 jours, ça désigne très exactement 3 ans et demi. Donc, sous des formes diverses, ces 3 ans et demi de la grande tribulation sont indiqués par Daniel. Vous avez... moi, je crois quand même qu'il faudrait peut-être s'arrêter là. Hein, vous préférez? On va s'arrêter là. Je ne sais pas si je parviendrai demain à tout finir, tant pis, on s'arrêtera là où on ira. Là, je vous ai donné suffisamment de choses, peut-être, pour les questions. Alors, nous reposons, vous vous reposez 10 minutes, et c'est que lorsque vous faites une intervention, moi, ça m'intéresserait bien que vous n'hésitiez pas à la développer un peu. Au lieu de me poser une question, comme vous l'avez fait gentiment, d'ailleurs, jusqu'à présent, j'allais dire presque respectueusement pour le vieux bonhomme où je suis, vous me posez une question. Bon, moi, j'aimerais mieux que vous développiez votre pensée un petit peu, que je puisse, peut-être j'aurai à répondre quelque chose, mais j'aimerais mieux que vous entendre un peu, savoir un petit peu ce que vous pensez et pourquoi vous dites telle chose. Allez-y.
Moi, j'ai une question. Je ne sais pas si ça pourra apporter grand-chose au débat, malgré tout. C'est sur la Pentecôte. Vous avez dit que lors de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, donc une fois pour toutes, c'est un effapax. Mais je m'interroge sur l'activité du Saint-Esprit avant la Pentecôte, en particulier dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, entre guillemets. Quelle était-elle et quelle est la nouveauté de la Nouvelle Alliance par rapport au Saint-Esprit, à l'activité du Saint-Esprit par rapport à l'Ancienne, et la continuité?
N'est-ce pas? Avant son incarnation, Jésus-Christ, en particulier dans les épiphanies de l'ange du Seigneur, a agi. D'ailleurs, le Nouveau Testament nous déclare que le Christ, en tant que Fils, était agissant dès la création du monde. Et il y a eu une action du Christ. Bon, on dit toujours que les œuvres de Dieu ad extra, les trois personnes de la Trinité sont ensemble. Si bien que, de même que l'ange du Seigneur a agi déjà dans l'Ancien Testament, donc que le Christ préexistant a agi dans l'Ancien Testament, de même le Saint-Esprit a agi à maintes reprises tout au long de l'histoire du monde. Le Saint-Esprit lui aussi est présent à la création, il plane sur les eaux au moment de la création, il est présent. Le Dieu agit, sa parole agit et son esprit agit dès la création. Alors Moi, je crois tout à fait que le Saint-Esprit n'a cessé d'agir sur Israël, qu'il a à plusieurs reprises, repris les choses en main. Tandis que à partir de la Pentecôte, il y a quelque chose de nouveau, en ce sens que le Saint-Esprit étant descendu sur l'Église une fois pour toutes, il y aura toujours quelque part dans le monde cette présence du Saint-Esprit sur son Église. C'est ce qui fait que l'Église est indéfectible alors que Israël ne l'était pas. Israël a fini par être détruit. Il n'y a plus de peuple de Dieu d'Israël à partir, en tout cas, de l'année 70. Autrement dit, c'est fini. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit ne pourra pas agir sur Israël, mais Israël n'avait en tant que peuple aucune promesse sur laquelle il pouvait vraiment compter. Tandis que l'Église, le Saint-Esprit ne quittera jamais l'Église. Alors il pourra lâcher à un moment donné telle Église, c'est qu'il agit en même temps ailleurs. Il y a une présence du Christ à son Église par l'Esprit Saint qu'il envoie. Alors là, c'est toute la question, vous savez, qui se pose au sujet du symbole de Nicée. Pour le symbole de Nicée, moi, je suis assez contre l'énonciation qui procède du Père et du Fils, à savoir du filioque. Pourquoi ? Non, pas du tout, parce que je ne crois pas que je crois tout à fait que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Mais je dis, il ne faut pas tricher avec la confession de Nicée. Ça n'y est pas. Alors, quand nous voulons, nous disons avec toute l'Église, nous affirmons non, parce qu'à ce moment-là, nous nous coupons de toute l'Église d'Orient, puisque l'Église d'Orient n'a pas ajouté le filioque au credo de Nicée. Donc, quand nous pouvons très bien dire, nous confessons avec toute l'Église, à condition de ne pas dire le filioque, ce qui ne veut pas dire que les catholiques romains de leur côté et les protestants de l'autre rejettent le filioque. Mais un texte est un texte. Vous ne pouvez pas changer une confession de foi. Si vous dites, avec le symbole de Nicée, nous confessons la foi de l'Église universelle, bon, moi je veux bien. J'aimerais mieux d'ailleurs qu'on dise, nous confessons la foi de l'Église catholique, au sens où nous avons défini catholique hier. Mais, c'est important, pourquoi est-ce que je vous fais ce rapprochement avec le filioque ? C'est que la présence du Christ et l'union du Christ à son Église ne se fait que par l'Esprit Saint. Et je dirais même, l'Esprit Saint ne lâche plus, ne lâche pas, et ne lâchera jamais la parole de Dieu. Autrement dit, nous avons une promesse, c'est que quiconque lit l'Écriture avec l'assurance que son auteur est l'Esprit Saint, ne manquera pas dans sa lecture d'entendre la parole, mais, je dirais, portée par l'Esprit Saint. Et je crois que c'est cette présence du Saint-Esprit qui est attestée une fois pour toutes le jour de Pentecôte. Alors vous voyez, je crois que le fait que Israël ait été déchu de son titre de peuple de Dieu, le vrai peuple de Dieu, c'est l'Église maintenant. C'est pas Israël. Israël n'a... Ça, c'est ma conviction. Israël n'est plus le peuple de Dieu, n'a pas droit au titre de peuple de Dieu. Maintenant, Israël est devenu une nation comme les autres, et c'est une nation au milieu des autres. Nous devons nous adresser à Israël comme nous nous adressons aux Français, aux Allemands, aux Japonais, tout. Mais, je dirais, il n'y a plus maintenant de privilèges pour Israël, parce que les privilèges qu'avait Israël, de façon d'ailleurs provisoire, sont passés à l'Église. L'Église est le nouvel Israël. Alors je crois que c'est... Il y a là quelque chose d'important. Le Saint-Esprit, maintenant, l'Église, la Bible, l'Écriture sainte, sont prises en main par le Saint-Esprit. Et maintenant, on ne peut pas... Quiconque lit la Bible avec un vrai désir d'écouter ce qu'elle dit, il lit la Bible et il y a la présence du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit accompagne la parole. Et alors, de même, le Saint-Esprit accompagne l'Église. Alors, il peut y avoir une Église, ou telle Église, qui devient apostate, ou qui devient hérétique, ou qui s'écarte par trop de l'Écriture, mais il y a une présence. Et je vais peut-être choquer tel ou tel d'entre vous, mais je crois, si vous voulez, que même l'Église romaine, d'ailleurs je pense que c'était la pensée de Calvin, même l'Église romaine, c'est une Église qui garde un statut d'Église, je ne crois, comme l'Église d'Orient. Je crois qu'on ne peut pas traiter l'Église romaine comme s'il n'y avait pas. D'ailleurs, pour Calvin, il y avait de tels restes de la véritable Église dans l'Église romaine. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait, on en fait l'expérience. Autant nous sommes catégoriques pour condamner des erreurs manifestes du magistère romain. Hein? Autant dans nos contacts avec certains catholiques romains, pas avec tous, même certains, nous sommes quelquefois frappés de voir combien nous sommes proches. Alors, ça ne légitime d'aucune manière les hérésies de l'Église romaine. Mais dans cette Église romaine, Dieu, par son Saint-Esprit, s'est gardé un peuple, comme il s'est gardé un peuple dans l'Église d'Orient. Et c'est là où je crois quand même que, par exemple, dans le rapport écuménique, on peut avoir à la fois un grand respect et en même temps être bien, bien carré quand il le faut. Hein, et par exemple, repousser le culte marial, repousser la transsubstantiation, repousser les mérites des œuvres et les indulgences. Et tout. Bon, alors nous pouvons être carrés dans tout ça. C'est notre devoir, puisque nous voyons que c'est en contradiction avec la parole de Dieu. Mais ceci dit, moi j'ai été étonné quelquefois. Par exemple, nous avons visité, ma femme et moi, Rome, au mois de mai de cette année. Au mois de mai, nous sommes allés à Rome. Nous avons été, il n'y a pas d'autre mot, épouvantés. Épouvantés. Sur la plupart des églises, il y avait un panneau ou un machin disant « Si vous entrez ici et priez, indulgence plénière. » Vous avez des panneaux sur presque tous les églises. D'autre part, les églises, c'est épouvantant. Nous avons vu une église, par exemple, qui est une église des Jésuites, où il y a une statue de Saint Ignace de Loyola, le fondateur. Mais c'est à frémir. À frémir. Il est là comme... C'est l'idole. C'est épouvantant. Nous avons vu des choses horribles. Avec ma femme, nous en étions malades. Et nous allions quitter Rome vraiment accablés. Or, il s'est trouvé que nous avons été invités au dernier soir par une petite équipe de dames, elles sont très peu, elles sont 4 ou 5, qui font partie de Notre-Dame de Vie. Je ne sais pas si vous savez un peu ce qu'est Notre-Dame de Vie. C'est une association catholique qui a des bâtiments et un centre pas loin d'Aix. Et ces dames, sachant que nous étions allés, que des professeurs de la faculté étaient allés, nous ont invités. Nous avons passé avec ma femme une soirée, il n'y a pas d'autre mot, inoubliable. Nous sommes, parce que nous avons dit d'abord à ces femmes, parce que nous avons dit, alors quelle impression vous avez de Rome? Ah, nous leur avons dit. Nous avons dit que c'était pas passé, nous étions restés dans la gorge. Alors, elles ont été un peu étonnées, mais au cours de l'entretien qui a suivi, nous nous sommes sentis dans une vraie communion en Christ. Dans une vraie communion en Christ. Et c'est là où, une fois de plus, j'ai vérifié qu'il y a dans l'Église romaine des âmes qui sont à Jésus-Christ, qui aiment Jésus-Christ, qui croient en lui comme dans leur Sauveur, qui comptent sur, je dirais, la vertu, la force, l'efficacité de son sacrifice. Et qui donc, pour des choses très essentielles, sont très proches de nous. Et alors, nous avons quitté Rome. Alors nous avions un ami prêtre qui avait un peu facilité notre voyage à Rome, justement parce qu'il est l'aumônier de Notre-Dame de Vie. C'est un carme, fait partie des carmes des chaussées. Vous savez, on dit OCD, ordre des carmes des chaussées, et qui s'appelle le père Lethel. Et le matin, comme ça, il nous a posé la même question que les dames le soir. Il dit alors, Quelle est votre impression? Alors, nous l'avons dit, les deux choses. Ils ont été épouvantés. Nous leur avons fait une description de...
Comment? La loi et l'évangile.
Oui, ça a été terrible. Et puis après, nous leur avons dit, mais nous avons été reçus hier soir par ces dames de Notre-Dame de Vie. Et nous avons passé une soirée spirituelle au sens du Saint-Esprit, une soirée spirituelle que nous n'oublierons jamais. Au point que, depuis notre visite, ces dames nous ont écrit que nous avons répondu à ces dames et que nous sommes en communion et que tous les jours nous savons qu'elle prie pour la faculté d'Aix. Alors, je vous dis ça pour vous montrer, le Saint-Esprit ne lâche pas l'Église. Oui, allez-y.
Oui, non, mais continuez. Je...
Non, non.
On peut changer de sujet.
Attendez, à moins. C'est vous qui m'aviez posé la question. Est-ce que
j'ai... Mais, disons, je m'interroge par rapport au peuple d'Israël. Est-ce qu'il, encore aujourd'hui, n'a-t-il pas un statut particulier devant Dieu? En ce sens que je lis en Romains 11, verset 29, les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables, et il parle d'Israël.
Oui, oui, mais ça, alors, je crois qu'il y a toujours pour Israël, je mettrai tout à fait Israël comme étant, si c'est quand même eux qui nous ont, c'est, le salut vient des Juifs, c'est quand même eux qui nous ont passé les oracles de Dieu, avec la Torah et tout ça. D'ailleurs, j'ai appris une chose, c'est tout nouveau ça, je viens d'apprendre une chose, que souvent les Juifs parlent, pour désigner la Bible hébraïque, ils disent Tanakh. Alors, moi j'ai cherché dans mes dictionnaires, des mots, je n'ai jamais trouvé Tanakh, j'ai cherché, je me dis, mais alors, je dois mal l'écrire, je dois mal l'entendre. Oh, ça veut bien dire simplement Torah, T, Nebihim, N, K, que l'oublie. Et alors, pour simplifier, au point de vue voyelle, ils ont simplement ajouté deux petits A. Alors, quand un juif vous dit la Tanakh, hein, vous saurez que ça veut dire la loi, les prophètes et les écrits, c'est-à-dire c'est l'Ancien Testament, c'est la Bible juive. Hein. Alors, moi, je dans mon livre futur, là partout où j'ai mis la Bible hébraïque ou la Bible juive, je vais mettre la Tanakh. Mais je préciserai dans une note qu'est-ce que c'est la Tanakh, parce que c'est beaucoup plus facile d'écrire Tanakh. Ça prend deux secondes, plutôt que d'écrire la Bible juive ou la Bible hébraïque, ça résume, et quand on sait que ça veut dire la Torah, les Nebim et les Ketubim, ben il n'y a pas de problème. Bon, alors, allez-y, on change de sujet.
Voilà, sur l'eschatologie. Alors, j'ai en fait deux questions, et bon, vous répondrez certainement aux deux dans une seule réponse. Donc, vous nous avez dit que pour vous, il y avait deux types d'eschatologie.
Une... Non, pas deux types. Il y a deux eschatologies.
Voilà, deux eschatologies, une qui s'est produite en 70 et une qui est prévue pour la fin des temps, oui, dont on ne sait pas grand-chose. Alors, la première question, je voudrais savoir où sont concentrées, selon vous, les données qui nous parlent de cette deuxième eschatologie. Et la suite de ma question, c'est est-ce que les disciples des apôtres, la deuxième génération ou la troisième génération, n'ont pas confessé plutôt une eschatologie plutôt de type prémillénariste ou amillénariste, c'est-à-dire qui prenait Matthieu 24 et l'Apocalypse pour quelque chose de futuriste? Et si oui, comment expliquer que justement les apôtres n'ont pas transmis la connaissance d'une eschatologie plutôt post-millénariste?
Oui. Alors là, vous posez une question importante. D'ailleurs, je crois que c'est une question qu'il faut carrément aborder aujourd'hui. Vous savez que dans le grec, mille... c'est qu'il y a. Et on parle, le millénarisme, c'est le mot qui est tiré du latin. Hein, chiliasme, c'est la même chose tirée du grec. C'est plus court de dire le chiliasme, alors j'emploierai plutôt le chiliasme. C'est uniquement dans le chapitre 20 de l'Apocalypse de Jean qu'il est parlé de ces 1000 ans. Et si je me souviens bien, dans ce chapitre 20, à 6 reprises, on voit 1000 ans. Il est question 6 fois de 1000 ans uniquement dans ce chapitre 20 de l'Apocalypse. Et alors, le chiliasme, c'est une réalité qui a été malheureusement bloquée avec les apocalypses juives. Moi, je vois une grande différence entre les apocalypses juives et les apocalypses chrétiennes, qu'il s'agisse de l'apocalypse immédiate, enfin passée historiquement, ou de l'apocalypse de la fin des temps. Pourquoi? D'abord parce que dans les apocalypses juives, on est complètement déconnecté de l'histoire réelle. On est dans un monde plus ou moins mythique. Deuxièmement, parce que les symboles qui sont employés dans les apocalypses juives, elles ont été nombreuses, hein, ces apocalypses, c'est un monde de symboles arbitraires. Tandis que tous les symboles des apocalypses chrétiennes sont dans la droite ligne de l'Ancien Testament. Vous pouvez le vérifier pour Matthieu 24, mais vous pouvez le vérifier aussi pour le livre de l'Apocalypse à la fin de la Bible. Ce sont rien que des symboles vétérotestamentaires. Ce ne sont pas du tout des symboles arbitraires, ce sont au contraire des symboles qui sont tirés de l'Ancien Testament, et que c'est pour ça que je crois que les chrétiens qui vraiment connaissent bien, manœuvrent bien, utilisent bien leur Ancien Testament, immédiatement ils comprennent les symboles apocalyptiques bibliques. Mais pas les apocalypses juifs. Parce que les apocalypses juifs, qui sont déconnectés de l'histoire, sont aussi déconnectés du symbolisme biblique. Et si vous voulez, chaque apocalypse juive a inventé ses propres symboles, tandis que les apocalypses bibliques, qu'elle soit dans Matthieu, Luc, dans les synoptiques, ou qu'elle soit dans la révélation de Saint Jean, puisque le mot apocalypsis signifie révélation, eh bien toutes, et ce sont des symboles uniquement vétérotestamentaires. Et troisième différence, qui est très importante, c'est que les apocalypses juives se fichent, comme de l'an 40, de la loi de Dieu. Ouais. Tandis que toutes les apocalypses bibliques sont des apocalypses qui ont une répercussion éthique. Alors ça, vous... C'est ce qu'a construit le commentaire de Chilton sur l'Apocalypse, et je crois qu'il a parfaitement raison. Quand on a découvert les trois points que je viens de souligner, qui ne sont pas de moi, on est au clair sur la distinction radicale, pour ne pas dire l'opposition radicale, qu'il y a entre l'apocalyptique juive et l'apocalyptique chrétienne. Oh, ça ne se ressemble absolument pas. Et c'est une erreur de penser que l'Apocalypse du Nouveau Testament peut être, par exemple, comme certains exégètes du siècle dernier l'ont prétendu, peut être une adaptation chrétienne d'une Apocalypse juive. C'est pas possible. Il y a des différences telles que ça n'est rigoureusement pas possible. Alors, si vous voulez, je crois que le chiliasme, il faut le prendre forcément dans un sens symbolique. C'est-à-dire que il faut entrer dans un monde autre que le monde biblique pour penser que les 1000 ans là sont à prendre. Bien sûr, ça ne veut pas dire que 1000 ans, ça ne peut pas avoir un sens de durée, mais même si ça a un sens de durée, ce que je ne crois pas, c'est à prendre d'une manière symbolique, et ça désigne les 1000 ans. Une exégèse attentive de l'Apocalypse, d'après moi, montre bien que les 1000 ans, c'est toute la période qui s'écoule entre la première venue de Jésus-Christ dans l'humiliation et la venue en gloire de Jésus-Christ. Alors là, ça peut durer. C'est pour ça qu'on s'est achoppé à plusieurs reprises à cette question. Moi, je rejette tout. Je ne veux pas. Qu'on parle de post-millénarisme ou de pré-millénarisme, parce que pour moi, le millénarisme, c'est pas bon. Mais parce que à partir de là, on va attendre une époque. Alors ce que je crois par contre, c'est là où je rejoins à certains égards le post-millénarisme, c'est que je crois que peu à peu, il y aura un développement de la foi chrétienne et de son impact sur la culture et sur les nations, qui feront qu'avant le retour en gloire de Jésus-Christ, il y aura une chrétienté, si l'on peut dire, qui ne sera pas du tout un monde sans péché, loin de là, mais qui sera un monde où la foi en Jésus-Christ dominera et où la loi de Jésus-Christ s'imposera comme loi, même si on désobéit à la loi. Moi, je fais une très grande différence. Il ne faut pas parler d'hypocrisie à ce sujet-là, mais pour moi ça fait une très grande différence, quelqu'un qui rejette la loi de Dieu ou quelqu'un qui reconnaît la loi de Dieu même si lui-même ne lui obéit pas. Si vous voulez, je crois que c'est Il y a toutes les époques, il y a eu des gens pour désobéir à la loi de Dieu. Et chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, désobéit à la loi de Dieu. Pour cette simple raison que nous n'obéissons jamais parfaitement à la loi de Dieu. Mais ce qui importe, c'est que l'Église proclame la loi de Dieu. Et ne triche pas avec la loi de Dieu en la modifiant. Voilà. Alors pour moi, il y a quelque chose d'essentiel. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut prendre un texte quelconque de la loi de Dieu dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament et puis dire qu'il faut l'entendre littéralement. Pourquoi ? Parce que je crois justement que bien des fois, pour vraiment écouter ce que dit une parole de la Bible, il ne faut pas prendre cette parole au pied de la lettre. Quand Jésus-Christ, je prends un exemple, quand Jésus-Christ dit « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. » Bon, allez-y. Il y a eu quelques cinglés parmi les anachorètes pour faire des choses de ce genre. Il y en a qui se sont émasculés, il y en a qui sont, parce qu'ils ont pris ça, ils disent « Bon, ben alors, puisque je suis sensible au péché de la chair, hop, allez, je m'émascule. » Ah non, non, mais ils l'ont fait, des anachorètes l'ont fait.
Origène aussi.
Quoi ? Origène. À commencer par Origène, et puis on a fait le coup, si j'ose dire, à Abélard. Je veux dire, il faut bien voir que c'est une parole qui veut dire quoi ? Il faut l'écouter et lui obéir à cette parole. Mais il faut bien voir ce qu'elle veut dire. Elle veut dire, si pour toi, telle chose dans ta vie est une occasion de chute, hein, et ça peut être quelque chose de différent selon les personnes, eh bien cette chose-là, écarte-la de toi. Si tu sais que ça t'amène à pécher, si tu sais que c'est pour toi, ça exerce sur toi une telle pression que tu y succombes, eh bien, il faut que tu y renonces. Je prendrai un exemple, exprès un peu idiot, mais quand même qui peut être très facilement compris. Moi, j'imagine que pour un homme ou pour une femme, danser, soit une occasion de chute. Enfin, il y a des gens pour qui la danse peut être une occasion de chute. Mais je crois qu'il n'y a rien dans la Bible qui interdise la danse. Et je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui ont dansé, pas bien sûr la danse de David de Monarch, mais qu'il y a bien eu des gens qui ont dansé, et ça n'a jamais été pour eux une occasion de chute. Alors, c'est ça que ça veut dire. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, c'est-à-dire s'il y a une réalité de ta vie qui est une occasion de choix pour lui, tu dois exclure cette réalité. La danse est pour toi une occasion de chute, eh bien, ne va pas. De même, je prendrai un exemple. D'ailleurs, il y a eu un petit livre qui a paru aux États-Unis, un petit livre réformé qui est excellent, sur l'usage des boissons alcooliques. Et qui montre très bien, mais la Bible n'a jamais interdit l'usage des boissons alcooliques. Bon. Mais vous avez des gens qui sont tels que s'ils commencent à boire un petit peu, ils ne vont pas boire un petit peu. Ils ne peuvent pas boire un petit peu. Parce que boire un petit peu, c'est pour eux quelque chose qui va les amener à se saouler et qui va les conduire à l'alcoolisme. Bon, alors, si quelqu'un est comme ça, ben, il faut qu'il écarte l'usage de l'alcool. Alors, il y en a qui ne doivent plus danser, il y en a qui ne doivent plus boire d'alcool, il y en a qui ne doivent plus faire ceci ou faire cela. Bon, à chacun de nous de voir ce qui est pour lui l'occasion de chute. Et s'il y a une chose dans sa vie qui est une occasion de chute, qu'il ôte de sa vie l'occasion de chute. Voilà le sens de la parole.
Oui. Voilà. Alors,
si alors c'est pas littéral, mais c'est quand même littéral. Mais c'est pas littéral au sens littéraliste. C'est littéral dans son vrai sens. Alors, il faut quand même avoir suffisamment, j'allais dire, de bon sens biblique pour ne pas faire ce qu'a fait Origène et ce qu'ont fait certains autres anachorètes qui se sont châtrés au sens physique alors qu'il ne s'agissait pas du tout de ça. D'ailleurs, vous savez que les moines, ce qui a été terrible, on le voit très bien quand on lit des récits concernant les moines du désert. Et vous savez, c'était des moines qui étaient quelquefois, précisément parce qu'ils avaient choisi de vivre sur des colonnes ou sur des choses, qui avaient des tentations épouvantables, et en particulier des tentations sexuelles épouvantables. Il aurait mieux valu pour eux qu'ils descendent de leur colonne et qu'ils se marient. Ouais, c'est sûr. Et parce qu'ils ont vécu dans l'obsession de la chair, justement en voulant se couper de la chair.
Simon, par exemple. Alors, est-ce qu'on peut dire, par exemple, que les 19 premiers chapitres de l'Apocalypse concernent la première eschatologie et que les chapitres 20 et suivants concernent la deuxième eschatologie?
On peut le dire si c'est ça. Non, je prends un exemple. Vous avez peut-être remarqué qu'avec le Matthieu 24, je me suis prudemment arrêté. Où est-ce que je me suis arrêté? Je me suis arrêté parce que on arrive tout à coup au verset 34. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Pof. Je m'arrête là. Parce que je ne suis pas du tout sûr que la suite se rapporte à l'année 70. Le ciel, qu'est-ce que dit Jésus après? Il dit, le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et alors là, je pose la question, je crois personnellement qu'il s'agit dans ces versets-là peut-être bien justement de la fin du monde.
Moi j'entame parce que j'avais une question là-dessus, mais il parle pourtant, il dit l'avènement du Fils de l'homme, et c'est la même expression que pour avant, hein. Alors c'est pour ça que j'avais une question, parce que justement je sais qu'on s'arrête à ce 34, mais il n'y a rien qui parce que de deux hommes qui seront dans un champ, etc., il n'y a rien qui me dit pourquoi ça ne pourrait pas être là et retrouver les parallèles comme on l'a fait pour les...
Oui, non, mais attention. Non, mais ne me faites pas dire ce que je dis pas. Je dis simplement qu'à cause du verset 34, oui, nous sommes obligés de penser que tout ce qui précède doit arriver dans cette génération. Mais je dis simplement, rien a priori ne nous affirme que... Là, j'ai forcément l'a priori. Si je lis les 34 premiers versets, j'ai l'a priori que tout ça, ce sont des événements qui vont se passer avant la fin de la génération. Bon. Mais après, je ne peux plus avoir cet a priori. Alors disons simplement, je suis ouvert à la possibilité que... Mais vous avez remarqué, je me suis tout simplement abstenu de parler des versets qui suivent. Bon, alors, ce serait une étude à faire, que je n'ai pas faite, mais qu'on peut faire. Alors, de quoi s'agit-il dans les versets qui suivent? Et certains pensent qu'il s'agit toujours d'événements qui vont se produire avant 70. Vous voyez? Mais d'autres, qui sont, je dirais, aussi nets en ce qui concerne les 34 premiers versets, là, pour les versets qui suivent, ils sont moins nets. Parce qu'ils n'ont plus la garantie que donne l'affirmation « Cette génération ne passera pas que tout ça n'arrive. »
Parce que c'était aussi pour répondre à la question de Bruno. Par exemple, tout à l'heure, on a parlé de la Jérusalem céleste. Et la Jérusalem céleste, il en est fait mention au chapitre 22 ou 21. Et c'est bien après le chapitre 20. Et pourtant, la Jérusalem céleste, selon cette interprétation, c'est l'Église. Et quand on parle de la nouvelle terre et les nouveaux cieux, vu que là, au verset 35, il y a le ciel et la terre passeront, il peut être fait mention de cette oui, terre et ce ciel, si j'ose dire, enfin, la création, ce que vous voyez là et ce dans quoi vous vivez, il va y avoir une espèce de nouvel ordre qui va s'organiser. Ça ne veut pas dire que matériellement, il y a des choses de changer, mais spirituellement, il y a un nouvel ordre qui s'instaure. Et à ce moment-là, ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre dont on parle tant dans l'Apocalypse, comme une espèce de transfiguration de la création actuelle, etc. Peut-être c'est tout bêtement ce passage à la nouvelle ère.
Oui, non, mais vous avez raison de dire ça. Tout à fait. Je, parce que Jésus dit, voici, je fais toute chose nouvelle. Il ne dit pas, je ferai. Si bien que dans un sens, quand Jésus-Christ vient dans notre vie pour y régner, il fait toute chose nouvelle. C'est-à-dire nous ne voyons plus le ciel, la terre, les hommes, les arbres, de la même façon. Tout est changé.
Oui. Oui, alors, la question que je me pose, c'est que très souvent, les prophéties de l'Ancien Testament ont deux côtés. Un côté pour tout de suite et un pour plus tard. Et est-ce qu'on ne peut pas considérer, par exemple, que la première eschatologie est simplement, en plus d'être une prophétie pour le présent, pour les années qui viennent, n'est pas non plus une prophétie pour la fin des temps? Dans ce sens que ce serait une reproduction cosmique de ce qui s'est passé à Jérusalem à la fin des temps.
Oui, la grande objection que je ferai à cette proposition, c'est que en ce qui concerne les événements de 70, il y a des signes discernables et de plus en plus précis de la réalisation. Tandis que quand il s'agit de la fin par le retour en gloire de Jésus-Christ et l'apocastasis, là, il n'y a plus aucun signe. Et c'est une chose dont Jésus va jusqu'à dire qu'il l'ignore. Donc nous nous trouvons devant, comment dire, on ne peut pas, il y a des choses significatives, réelles et historiques qui préfigurent les événements de 70. Ce sont les sept signes dont j'ai parlé cet après-midi et que Jésus donc annonçait, hein, et qui se sont réalisés. Bon. Alors c'est fait. Comment voulez-vous qu'on déduise, et de quel droit est-ce qu'on déduirait que ça n'est que l'esquisse de choses qui doivent se reproduire? Je ne vois rien qui nous pousse à le penser. Ça pourrait exister que quelque chose me pousse à y penser. Mais alors je demande à voir où, qu'est-ce qui pousse à penser que ça n'est qu'une répétition de choses qui doivent se réaliser à nouveau?
Dans la perspective que vous avez présentée, comment devons-nous considérer la résurrection nationale d'Israël? Est-ce que ça peut avoir une portée théologique ou eschatologique quelconque?
Ouais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que maintenant, d'ailleurs il y a deux choses historiques qu'il faut bien savoir. D'abord, on peut toujours poser la question, qu'est-ce que les Juifs? Qu'est-ce que c'est une question. C'est une question que s'était posée Jean-Paul Sartre. Et il a eu une réponse qui me paraît complètement stupide, malgré tout le respect que je lui dois. À savoir, il dit, les Juifs, ce sont ceux que nous désignons ou qui se désignent comme tels. Pour une raison très simple, c'est que c'est indéfinissable, les Juifs. Vous savez, par exemple, que la majeure partie des Juifs actuels, pas tous, mais la majeure partie de ceux qui se désignent comme juifs, ou que nous désignons comme juifs, pour reprendre le vocabulaire de Sartre, ce sont en réalité des gens qui n'ont rien à voir avec l'Israël selon la chair. Parce qu'il s'est passé au Moyen-Âge, et il s'est répété qu'il y a eu la conversion de peuples entiers au judaïsme, c'était des peuples, si bien que le juif est... Actuellement, je ne sais pas si on comptait physiologiquement, c'est la plupart du temps un juif à 1%. Mais encore, 1%, on est peut-être large en disant 1%. Alors, il n'y a pas de race juive. Il n'y a pas de race juive.
Vous voulez dire, il n'y a plus de race
juive. Il n'y a plus de race juive. Et alors, ça ne peut pas se définir par la race, les juifs. Ça ne peut pas se définir non plus par la religion, puisque tout le monde reconnaît que les juifs croyants sont une minorité parmi les juifs. Il y a très peu de juifs croyants. En Israël, les vrais juifs, enfin ceux qui sont comme ça, ils sont quelques-uns. Et d'ailleurs, bien de leur manière de vivre n'est pas du tout selon la loi vétérotestamentaire, mais selon des traditions humaines dont certaines sont relativement récentes. Bon. Alors, on ne peut pas les définir par la race. On ne peut pas les définir par la religion. Puisqu'ils sont pour la plupart athées. Alors on va les définir par quoi? C'est pour ça que la question de Sartre, qu'est-ce que les juifs? Il répond, ce sont ceux que l'on désigne comme tels ou qui se désignent comme tels. Bon, on n'est pas plus avancé. Et finalement, on ne voit pas qu'est-ce que c'est que... Alors tout ce qu'il y a, ce qui est nouveau, alors depuis 1948, c'est qu'il y a un État d'Israël. Il y a un État d'Israël. Et alors cet État d'Israël, moi, il me semble que nous sommes obligés de le considérer comme une nation. On ne peut pas le considérer comme l'Israël croyant ou l'Israël rassaï, mais il y a une nation d'Israël. Et alors, ce qui m'épouvante, c'est l'idée qu'ont certains qu'un jour viendra où, à Jérusalem, on rebâtira le temple et on recommencera à offrir les sacrifices. Mais alors, si jamais une telle chose arrive, pour moi, ce sera qu'un renouvellement d'abomination de la désolation. Parce que, je dirais, ce serait une fois de plus une affirmation par une nation.